J'ai la chance et le privilège de me retrouver en face de deux frères, Marc et Christian Barani. L'un est architecte, je parle de Marc. Bonjour Marc et bienvenue à la Radio du Cinéma.
Bonjour.
Et puis je parle évidemment de Christian Barani qui est un cinéaste. Bonjour,
bonjour
Christian et bienvenue à la Radio du Cinéma également. Alors on va parler évidemment de vos métiers respectifs. On va commencer évidemment par vous Marc. Si vous pouvez brièvement vous présenter et expliquer en fait qu'est-ce que l'architecture pour vous véhicule, en particulier dans la sphère artistique. Parce que je sais qu'il y a un mot qui vous est commun, c'est le mot art.
Alors, je suis architecte, donc j'ai fait mes études d'architecture à l'école d'architecture de Marseille. Et c'était une période d'incertitude, un peu comme à l'heure actuelle, sur ce que doit être l'architecture, vers où elle doit aller. Et donc, j'ai fait un parcours un peu mixte, où donc j'ai étudié dans l'école même. Ensuite, je suis parti au Népal pour mon diplôme pendant un an et pour faire des études d'anthropologie. Mmh. Et puis, j'ai complété ces études par des études de scénographie à la Villa Arson à Nice, qui est une école d'art, pendant 4 ans, mmh. et qui m'a permis donc d'avoir une position un peu mixte, transversale entre plusieurs disciplines, étant entendu que c'était une époque où on se posait beaucoup de questions sur qu'est-ce que peut être l'architecture. Et si je ne savais pas la définir, j'avais l'intuition qu'elle était entre l'anthropologie, la façon dont vivent les gens, et les arts plastiques, dans sa définition spatiale, matière et lumière.
On peut préciser en fait les faits les plus importants de votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui ont marqué un peu, notamment cette école de la photographie de Arles, qui fait partie donc de votre œuvre. Hein. Voilà, vous pouvez peut-être détailler d'autres projets qui ont pesé un petit peu dans votre carrière.
Oui, si on démarre c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que je dois rajouter que pendant mes études, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques-Henri Lartigue qui a été pour moi un maître et qui m'a ouvert à beaucoup de choses dans la vie.
Et, on précise, donc un photographe humaniste en fait, hein, par excellence.
Oui, un des premiers.
Voilà, tout à fait, dans la veine des Robert Doisneau, etc.
Voilà. Le mouvement, etc. Et mm-hmm. puis, je me souviens, j'étais encore pendant mes études, j'étais allé aux rencontres d'Arles, puisqu'il y participait, et quand on a eu à faire le concours et qu'on a eu la chance de le gagner, ça a été un projet important parce que faire une école, c'est un sujet complexe. Et je l'ai fait à partir de...
Vous voulez dire un lieu d'inspiration
Oui, comment on travaille dans une école, comment elle peut être ouverte sur la ville et mmh. puis recentrée sur elle-même avec les étudiants.
D'accord.
Et m'est venu à l'esprit à ce moment-là Cartier-Bresson qui disait... Faire de la photo, c'est fermer un œil pour regarder à l'intérieur et ouvrir un œil pour regarder le monde. Et voilà, c'est cette idée force qui a permis de faire cette école qui est très ouverte sur le boulevard et qui est en même temps centrée sur un patio où les étudiants se retrouvent à l'abri du monde. Parce que pour créer, il faut être dans le monde et à l'abri du monde en même temps.
Christian, donc vous donnez dans le milieu du cinéma, vous êtes cinéaste,
oui.
Vous faites également des installations. Je vous en prie, présentez-vous un petit peu également.
Oui, mon travail de cinéma, en fait, questionne aussi le processus même du cinéma. C'est-à-dire que je fais à la fois des films linéaires qui sont projetés dans des salles de cinéma, mais j'aime aussi déployer les images dans l'espace et reconvoquer en fait l'histoire du cinéma. Parce que l'histoire du cinéma, les premières images de cinéma ont été faites par Edison. C'était des dispositifs, un écran, un spectateur qui était disposé, multiplié dans l'espace et disposé dans l'espace pour que les spectateurs puissent venir.
Comment l'un envers l'autre s'enrichit mutuellement et qu'est-ce qui porte en fait cette notion de fratrie? En quoi elle est, j'ai envie de dire, un élément déclencheur peut-être pour bon nombre de projets?
Oui, c'est difficile de répondre à cette question. Bon, la fratrie, on se connaît forcément. On a passé notre enfance ensemble, donc on a un corpus d'émotions qui est commun. Ensuite, moi, j'ai démarré mes études d'archi. Christian a fait... Sciences Éco sur notre dispositif aussi. On a un parcours qui peut, d'une certaine manière, parler de l'errance comme une qualité. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé directement à ce qu'on faisait. Et puis, petit à petit, les choses se sont passées sans qu'on ait du tout l'idée qu'un jour on devrait travailler ensemble. Christian montrait ses films, je lui montrais mes projets. Et puis, au fur et à mesure, il y a des thèmes communs qui sont apparus, mais encore une fois, ce n'était pas prémédité.
Oui, ça ne s'est pas imposé, quoi.
Non, ce n'était pas l'idée d'un corpus qu'on allait travailler. Et puis, c'est à l'occasion d'un projet qui est l'extension de la prolongation du tramway de Nice, enfin la gare des tramways de Nice, pour être précis, où on a eu affaire à un problème de représentation, parce que c'est un projet qui est fait sur le mouvement, qui est hyper complexe et qui n'était pas possible de rendre par la photo. Et là, voilà, on a pris le risque, parce qu'au début, on pouvait imaginer que ce soit un risque, mais ça n'en était pas, de travailler ensemble.
Et, on est en quelle année, Marc?
On est en 2008.
D'accord.
2009.
Christian, parlez-moi de cette première expérience.
Le travail s'est déroulé d'une manière très très simple. Marc m'a amené sur le projet. On a arpenté ensemble pendant plusieurs jours, parce que c'était sur une grande surface. Pendant plusieurs jours, on a arpenté les lieux où il m'expliquait tout son travail, toutes ses difficultés.
Ça vous a permis de vous en imprégner peut-être, hein.
Totalement. Et puis, voilà, donc moi j'avais ma caméra, je commençais à filmer, mais je savais très bien que ça n'allait pas être les images du film. Oui. Mais plus comme un moyen de commencer à rentrer en rapport avec le travail de Marc et l'espace qu'il a bâti, comme un pré-représentation en fait du travail. Mmh. Et ensuite, je suis retourné tout seul pendant plusieurs jours pour filmer. Et après, le montage s'est fait. On a fait une séance d'interview ensemble. Et puis, le travail s'est fait très simplement.
Vous parlez du mot montage. Quand vous êtes à cette étape de la création, est-ce que Marc intervient également ou vous faites ça tout seul ?
Non, parce que moi j'ai un protocole qui est assez particulier, c'est que j'écris jamais de scénario.
D'accord.
Donc je ne sais pas ce que va être le film.
Ah, c'est le film de l'instant.
C'est la matière de l'instant. Je travaille sur l'expérience. C'est comment le corps rencontre les êtres, rencontre les espaces. Et de cette expérience naît des images.
D'accord.
Et ces images, il n'y a pas de pré-représentation, il n'y a pas d'intention de film derrière.
Extrêmement intéressant.
Il y a juste l'intention de récolter un matériau. Mmh. Et à partir de ce matériau, il peut prendre la forme d'un film, d'une installation, de je ne sais quoi.
D'accord. Justement, en fait, Marc, vous avez évoqué un mot qui est très important, le mot errance. Et quand je vous écoute, Christian, en fait, c'est un petit peu ce que je ressens personnellement. C'est que dans le cadre de vos observations, il s'agit, j'imagine que c'est un terme un peu mutuel, on sent quand même qu'il y a une volonté assez marquée, assez forte, de capter l'atmosphère et pour que chacun, avec vos talents respectifs, vous puissiez le révéler et l'offrir aux autres d'une manière ou d'une autre. Je me trompe ou
Non, c'est très juste d'ailleurs quand je parle d'architecture, et notamment la relation de l'architecture au paysage et à l'environnement humain et social, c'est un mot que j'utilise souvent. Parce que désigner une fenêtre, elle cadre un paysage, elle en fait une image. Capter un paysage, c'est tout à fait autre chose. Ouais. Et dans le travail de Christian, comme c'est très instinctif, c'est à la fois très précis et très instinctif. C'est-à-dire l'architecture, c'est plus lourd à manier, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ouvert à ce qu'on n'a pas prévu. Il y avait aussi une manière de relire le travail que l'équipe a fait, le travail de l'atelier, et de comprendre, parce qu'on a quelquefois on a des intentions qui sont pas matérialisées. Et Christian, quand il filme, il révèle des choses qui étaient potentiellement là.
Pour être un peu plus précis dans mon travail, je pratique la dérive.
Voilà,
qui est une sorte d'errance.
D'accord, bien
sûr. Et tous les jours, quand je filme et quand je travaille sur un film, je ne sais pas ce qui va s'opérer dans la journée, je ne sais pas ce qui va advenir.
D'accord.
Voilà, donc c'est pour ça que je n'écris pas.
Vous êtes en totale improvisation alors.
En totale improvisation, comme t'es jazzman.
D'accord.
En fait, voilà. Et ce qui a une position particulière, parce que le cinéma traditionnel, à la fois pour des questions de production, pour des questions de réalisation, interdit ce type de pratique.
Mais alors, du coup, j'ai envie de vous dire, la lumière a une incidence considérable dans votre inspiration. Parce que si le matin tôt, vous démarrez vos promenades, vos errances, et si vous y êtes en plein milieu de la journée avec une lumière zénitale, ou si vous êtes en ce qu'on appelle dans la golden hour, en fin de journée, ou après dans la blue hour où la lumière décline, finalement, on va avoir un narratif qui va être totalement différent, et j'imagine que ça conditionne énormément votre façon de vous inspirer.
Exactement, exactement. Et puis, en fait, je travaille avec l'inconscient. Mmh. Plus qu'avec le conscient. Walter Benjamin disait, il faut marcher pour aller à gauche ou à droite, c'est faire un acte poétique, c'est-à-dire abandonner les habitudes, abandonner les pré-représentations, abandonner ce que l'on cherche pour s'offrir à l'inconscient, à l'improvisation. Et donc, tout le travail, c'est un travail aussi physique. Parce que je marche entre 15-20 km par jour jusqu'à l'épuisement.
Ah, c'est énorme.
Et c'est grâce à cet effort physique que les endomorphines montent dans le cerveau et transforment notre rapport à la réalité. Et donc on est comme une espèce de...
Dans
un état de transe.
Voilà,
une sorte de petite transe, mais qui permet pour moi, de me mettre dans un état où je peux rencontrer les espaces, les êtres, et pouvoir
Et ça filmer. Conditionne votre créativité, du coup.
Bien sûr, j'ai pas de pied, j'ai toujours ma caméra à la main. Je suis tout seul et je me perds dans les espaces.
Et alors, du coup, Christian, la question, c'est vous filmez en permanence ou vous filmez, en fait, quand vous jugez que c'est le moment ?
Quand il y a une rencontre entre mon inconscient, ce que je cherche, et le monde qui fait face à moi. C'est une sorte de triangle comme ça qui fait que, d'un seul coup, il y a nécessité de filmer, et quand je déclenche, je ne filme qu'une seule fois la prise, je ne recommence jamais une prise.
Marc, quand vous écoutez parler Christian de cette manière-là, on sent qu'il y a quand même une vraie posture artistique. Quel type de résonance ça véhicule chez vous ?
Il n'y a pas que l'intuition, il y a aussi, quand je vois Christian filmer, on est parti à l'étranger, il l'a filmé, c'est qu'il est dans une sorte d'état qui fait qu'il y a certaines choses qui apparaissent. Alors qu'elles n'auraient pas dû apparaître. Parce que les gens autour, il y a une interaction avec le monde. Il y a
Des émotions.
Oui, il est capable de filmer quelqu'un qui a
priori... Suffisamment prêt réaction soit là.
Voilà. Qui est agressif. Je l'ai vu filmer en Inde, un chauffeur comme ça, qui se disait, tu vois, qui l'a approché, il a amadoué avec la caméra. Enfin, c'est un truc incroyable. Tout ça, c'est pas que de l'intuition, il y a une espèce de rapport comme ça qui s'établit. Évidemment, tout ça a été étranger à l'architecture. Nous, quand on démarre, il y a une question d'intuition, quel va être le projet, mais il y a des données d'entrée de plus en plus complexes à trier, c'est un travail d'équipe, il faut organiser le travail avec des ingénieurs, avec toute une série de choses, mais ce que Christian m'a apporté aussi, qui l'a renforcé, j'en avais un peu l'idée évidemment, c'est que faire une architecture, c'est faire des possibles aussi, même si c'est hyper précis, si ça doit être compliqué, toutes les normes. Enfin, c'est un métier qui est de plus en plus technique. Il faut garder cette part d'imaginaire. Il faut garder l'architecture comme un potentiel. Et quand j'ai fini un projet, on a parlé avant avec Christian, et qui se balade à l'intérieur, ce potentiel, il se révèle. Là, sur le tramway de Nice, par exemple, j'ai demandé à Marilyn Debiol, qui est écrivain, d'écrire un texte. Et c'était une sorte de trépied. Elle a restitué ce lieu avec son outil qui est l'écriture, mais qui était, elle aussi, une sorte de rapport au site, au potentiel du site, au fait que, bon, le principe même de ce lieu, c'est que les gens se croisent, c'est que, voilà, il y a des voyageurs, il y a des traminos, on a requalifié un quartier, donc Christian a filmé les gens, il est allé filmer des gamins qui jouent, c'était essentiel, et ça, tout ça, c'est étranger à l'archi en termes de fabrication du projet. En revanche, il faut que l'architecture le permette.
Il y a quand même cette dimension très poétique que je trouve qui vous est commune.
Oui, sachant que c'est pas un objectif.
D'accord.
C'est une manière de faire, pour moi en tous les cas.
C'est le résultat. Christian va réagir également là-dessus.
Oui, hein. C'est le résultat d'un travail qui, encore une fois, est fait aussi de lutte. C'est compliqué de faire un projet, de mettre en...
Une sorte de dualité.
En ordre, voilà. l'ensemble des intervenants.
Bien sûr.
Parce que de l'ouvrier jusqu'au maître d'ouvrage et à l'homme politique, s'il y a dans toute la chaîne de la production une défaillance quelque part, ça va se voir, ça va se sentir quelque part. Bon.
Ça va sonner faux.
Voilà, la poésie, c'est pas un but. La beauté, puisqu'on risque d'y arriver, non plus.
Bien sûr.
C'est un mot qui... c'est un mot valise, déjà. Chaque fois qu'il est utilisé, pour moi, c'est un warning. et puis, il y a diverses manières de considérer la beauté. Par exemple, on a une expérience commune aussi qui nous structure. C'est celle d'avoir pratiqué, s'être immergé dans des cultures différentes. On parle du Népal, par exemple. Enfin, ce qu'on aime, Christian et moi, je parle pour toi, mais c'est de confronter notre culture à d'autres, parce que ça permet d'éclairer aussi la nôtre.
D'accord. Hein,
ça, c'est fondamental. Mais par exemple, au Népal ou dans la culture hindouiste, la beauté, c'est pas un but, c'est le départ. C'est un véhicule qui nous permet d'aller plus loin. Et voilà, la question de la poésie, c'est un peu la même chose. Considérer la poésie comme un but ou la beauté comme un but, c'est se rétrécir artificiellement. Le dispositif, il doit être ouvert.
Par contre, la manière dont le film se construit, se produit, se réalise, peut induire au final une forme poétique. Donc ça, c'est pour moi, le processus est fondamental et essentiel pour parce qu'il m'est personnel, parce que j'adore ça, parce qu'il me met en tension, parce que l'objectif est de créer du lien avec les êtres et les espaces que je rencontre et de partager un instant, même s'il est futile et très court, mais capter le regard de quelqu'un, l'attention, le geste, dans sa beauté, c'est pour moi essentiel.
Alors justement, merci de me faire la transition. À tous les deux, je vous pose la même question et j'aimerais vraiment avoir votre avis personnel systématiquement. Pour vous, le mot beauté, il représente quoi ?
Pour moi, c'est un état que je ne saurais qualifier, mais c'est un état qui peut être provoqué par vraiment des situations extrêmement différentes.
Mais il n'y a pas une beauté. Le problème, quand on parle de la poésie ou de la beauté, c'est qu'il n'y en a pas qu'une.
Ouais.
Et précisément, notre expérience des voyages, c'est que dans certaines cultures, on trouve les choses belles, nous non. Voilà. La beauté, c'est un rapport personnel avec une émotion qui transcende d'une certaine manière, qui, encore une fois, je le répète, nous amène ailleurs. Mais il n'y a pas une beauté. Et souvent, quand on prononce ce mot, on le prononce au singulier, alors qu'il devrait être systématiquement prononcé au pluriel. L'émotion, elle est personnelle, elle se construit. On parle d'art contemporain. Il est évident qu'on peut avoir, avec Christian, parce qu'on fréquente certains artistes, des émotions devant des œuvres qui sont qualifiées d'œuvres et que d'autres vont ou ne pas comprendre ou chez qui ça va
produire aucune
émotion.
Ouais.
Voilà. Donc cette notion de beauté ou de poésie, je pense qu'il faut en parler au pluriel parce que c'est un rapport personnel avec ces notions et que chercher à les définir, c'est une erreur parce qu'elles sont par définition évolutives et infinies. C'est une espèce de danse. Moi, ce que je veux jamais perdre de vue, c'est sans doute aussi en contact avec Christian, c'est le vivant, c'est la catégorie, c'est celle qui faisait que Jacques-Henri Lartigue, le photographe, photographiait, ce qui l'intéressait, c'était d'attraper le vivant. Et quand on part de ce principe simple, essayer d'attraper le vivant à un moment donné, de lui permettre de s'épandre, on se rend compte que pour le faire, il faut une connaissance aiguë de tout. Ça rappelle un peu ce que tu disais, Christian, mais j'étais avec l'Artigue à Frick Street, à Londres, parce que quand on voit ces photos, on se dit, c'est super, il a attrapé un instant. Voilà. J'étais avec lui là-bas, et chaque fois, je me disais, parce que j'étais passionné par la photo, je me disais, tiens, ça aurait pu faire une belle photo, mais lui, il l'avait fait, parce qu'il sentait les choses, il sent le temps. Je me souviens d'une photo très précise avec une punk et un chapeau melambe de cuir, City. Il les voit arriver, ils se croisent, ils s'imaginent, ils évaluent le moment où ils vont se croiser. Comme il est né avant la mise au point automatique, il savait exactement, il a fait sa mise au point comme ça.
D'accord.
Et au moment où ils se sont croisés, il y a eu un instant incroyable, un regard sans jeter les deux, qui était en réalité très, comment dire, très amical ou très en empathie, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça ne soit pas le cas. Voilà. C'est pour pouvoir essayer de produire du vivant, parce que c'est la catégorie qui pour moi est supérieure à celle de la beauté ou de la poésie, avec tout ce que ça comporte, hein, d'inattendu, de bien, de mal, de machin, toutes ces catégories-là, elles sont mélangées. Il faut avoir une connaissance le plus aiguë possible des lieux, il faut y être attentif, des gens, des sociétés, des enjeux aussi qui fabriquent le projet, qu'ils soient économiques, politiques, techniques, sociaux. Et pour ça, c'est un travail permanent, quotidien, et le regard distant que nous donnent d'autres civilisations sur la nôtre est essentiel.
En fait, à la fin de chaque expérience, et donc de formalisation de l'expérience au travers d'une installation ou d'un film, à la fois il y a cette question de la joie, mais aussi il y a toujours chez moi cette notion d'insatisfaction. C'est-à-dire que je suis toujours insatisfait. Et c'est toujours quelque chose qui, à la fois, me pousse à faire l'autre film.
Bien sûr.
Et chaque fois que je vois un de mes films projeté en salle, j'ai envie de le remonter. Je le dis là, et je le remonte.
On arrive au terme de cette interview. Marc, il y a une tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander de nous partager votre film préféré. C'est valable aussi pour Christian. Votre musique de film préféré et votre réplique préférée.
Alors, pour le film, le cinéma, c'est André Roublev de Tarkovsky. Ouais. Bah, j'aime bien cette idée de la position méditative par rapport à l'art, cet engagement total de l'artiste dans une quête voilà, qui lui permet de traverser les siècles. Il y a une dimension des paysages aussi. Et puis, cette idée que quand on est quelque part, par là, on peut toujours s'en échapper et accéder à autre chose. Après, il y a Einstein on the Beach par Phil Glass.
Pour la musique, donc.
Oui, ça, c'est tout simple. C'est que comme c'est une musique minimaliste, répétitive, on faisait toutes nos charrettes d'architecture avec ça. Et qu'au bout d'un moment, c'était comme un mantra. Ça crée un rythme et qu'on avançait. Et c'est vrai que ça a structuré beaucoup de travail d'équipe. Parce que l'architecture, c'est un travail qui se fait avec passion. On déborde souvent. Une citation, une réplique, c'est un film, donc c'est lié à un film un film iranien. C'est une jeune fille, Sepideh, qui voulait devenir astronaute, et donc en Iran, en étant une fille, c'est d'actualité. Ouais. Là, c'est compliqué, elle a une réplique qui est structurante pour moi, en tous les cas, qui m'a éclairé. Elle dit, à un moment donné, ce ne sont pas les grilles autour de l'étang qui me gênent, mais de nager avec des poissons qui ne connaissent pas la mer.
Magnifique. Christian, c'est à vous de relever le défi, mais Marc a placé la barre assez haute. Excellent.
Mon film, c'est pas préféré, mais essentiel, ce qui est différent.
Oui, quelque chose dont vous avez du mal à vous séparer.
Oui, c'est L'homme à la caméra de Dziga Vertov.
Parce
qu'il est essentiel à tout réalisateur qui doit commencer à faire des films, et notamment des films documentaires, parce qu'il pose dans son film, il y a toutes les problématiques et toute la question du point de vue, la question du rapport au réel, la question le film commence dans une salle de cinéma, on projette une image, c'est-à-dire que d'entrée il dit il n'y a pas d'objectivité, tout est fiction en fait, mais en même temps cette nécessité d'être au contact du réel, toute cette complexité du rapport entre la fiction et le réel, la question du montage, du rythme, du montage musical.
Oui, c'est une véritable... Voilà, c'est une ode au cinéma, quoi.
C'est une bible.
Oui,
voilà.
D'accord.
Et quand on commence le cinéma, il faut absolument...
On reprécise donc le film.
Dziga Vertov, L'homme à la caméra.
Voilà, absolument. Alors, votre musique préférée, Christian?
Ma musique préférée est la bande-son d'un film de Jean-Luc Godard. Le film, c'est Nouvelle Vague. Je trouve que le travail sonore, tout comme Tati et Godard, pour moi, sont les deux immenses réalisateurs qui considèrent le le travail sonore comme une création essentielle et indispensable au film. Et le,
une petite réplique pour terminer.
La réplique, c'est un film toujours de Godard.
Ouais.
C'est à la fin, il y a Belmondo qui est en train de mourir, il dit « c'est dégueulasse ». Et Gene Seberg dit « c'est quoi, dégueulasse ?» Voilà, et je trouve que ça résonne malheureusement avec nos temps.
C'est vraiment dégueulasse.
Action !
Oui, j'ai plus de batterie, comment on fait ?
Ah, ben il faut que j'aille à la radio du cinéma.